Radio Campus 88.3.
Faut me croire, mec, c'est de la bonne musique. C'est d'enfer, ça va te filer la pêche.
Non. Tout ce que ça va me filer, ton truc, c'est la migraine, stop.
Rien qu'une chanson.
Tu vois, ce qu'il te faut, c'est un peu de easy listening.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
C'est jamais complètement innocent, cette histoire de définition du fascisme. Parce que si nous disons Pétain était un régime globalement fasciste, ou si nous disons Pétain n'était pas un régime fasciste, ça change quand même beaucoup de choses sur les enjeux actuels, parce que beaucoup de gens collaboraient avec Pétain. Dire que des gens collaboraient avec un régime fasciste, c'est pas la même chose que de dire que des gens collaboraient avec un régime conservateur, catholique, traditionnel, autoritaire. C'est pas la même chose. Ça mouille moins quand même, hein. Et moi je pense que c'est un petit peu ça le problème. Non, on n'a pas été fasciste. On a juste été pétainiste. Non, on n'a pas été fasciste, on a juste été franquiste. C'est pas la même chose vis-à-vis du jugement de l'histoire. Et je pense que ça permet de dédouaner un certain nombre de salopards qui ont trempé dans la sauce fasciste, mais qui veulent pas le dire.
Extrême gauche qui se trouve dans un état de mort cérébrale. Il a été violemment frappé par des skinheads près de la gare Saint-Lazare. La victime, Clément Méric, 18 ans, était élève à Sciences Po où l'émotion est immense. Beaucoup de questions se posent après ce drame. Qui sont les agresseurs? Le parti de gauche pointe du doigt les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Le groupuscule dément. Manuel Valls dénonce une violence qui porte la marque de l'extrême droite. La polémique politique enfle.
Salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette émission avec nos copains historiens. Salut André.
Salut à tous.
Et Cédric, salut Cédric.
Salut.
Éclairer notre présent à la lumière du passé. On va donc se pencher aujourd'hui à partir de ce triste événement qu'est l'assassinat de Clément Méric, syndicaliste, militant antifasciste assassiné à Paris en ce triste mois de juin 2013. Et l'occasion de se poser la question, l'extrême droite française, les ligues, sont-elles de retour? Question que je t'ai déjà posée, Cédric, lors d'une récente manifestation, où tu m'as répondu, ils ne sont pas de retour, les loups nazis, en fait, ils ne sont jamais partis, ils ont toujours été là.
Ils sont pas partis, là on les voit en action, libérés qu'ils ont été par la droite décomplexée, qui se laisse aller de plus en plus à des propos venimeux, agressif, qui libère une parole, et la libération de la parole est l'antichambre de la libération des actes violents. Le point d'orgue a été cet ensemble de manifestations contre le mariage gay, dans lequel on a vu effectivement ressurgir un certain nombre de groupes qui se sont adjoints, organisés, enfin, ça a été pour eux une tribune, parce que la presse était là, les médias étaient là, ils pouvaient toucher des gens qui étaient proches d'eux, mais qu'ils ne les connaissaient pas forcément. Donc ils sont revenus sur le devant de la scène, mais ils ont toujours existé. Et ceci depuis plus d'un siècle, les ligues sont toujours là, en marge de la droite, essayant d'attirer de larges franges de la droite dans ses filets.
Alors il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 20 ou 30 ans, l'extrême droite en France, les ligues, ça s'appelait le GUD, ça s'appelait Occident, ça s'appelait Longuet, ça s'appelait De Végian, des choses comme ça. Deux réflexions personnelles avant qu'on ouvre la porte de l'histoire, les amis. J'ai manqué de vomir à chaque fois que j'ai écouté le 13h de France Inter, où à aucun moment, me semble-t-il, il n'a été dit que Clément Méric était syndicaliste. Clément Méric a toujours été présenté dans les journaux de 13h de France Inter comme un extrême gauchiste, qu'on soit finalement d'extrême gauche ou d'extrême droite dans la propagande qui nous est assénée, c'est pareil, c'est des extrémistes qui se bagarrent. Or, ces gens, il faut rappeler, en tout cas Clément Méric était un militant syndicaliste et un militant antifasciste. C'était pas un extrémiste qui prenait un malin plaisir à faire des bagarres avec d'autres extrémistes.
Après une altercation verbale, un jeune militant d'extrême gauche,
un militant d'extrême gauche,
d'extrême gauche,
d'extrême droite,
d'extrême gauche,
des skinheads d'extrême droite,
extrême gauche de l'extrême droite, extrême gauche de l'extrême droite.
Et le deuxième point, en décor de fond, si j'ose dire, je pense et j'espère me tromper, que le Parti Socialiste, pour faire passer des réformes antisociales dégueulasses, destruction du Code du Travail, destruction du CDI, destruction des prud'hommes, destruction des inspecteurs du travail, mais je soupçonne ces gens actuellement au pouvoir d'avoir organisé un écran de fumée en excitant la France sur le mariage homo, pour masquer des choses tout aussi graves. André, toi, sur France Inter, la radio des gens intelligents, tu as entendu des analyses un peu plus pertinentes que celles que j'évoquais tout à l'heure.
J'ai entendu Thomas Legrand répéter à plusieurs reprises à propos de l'assassinat de Méric que l'extrême droite, ce n'était pas l'extrême gauche, il l'a dit, il l'a répété, etc. Quant à l'écran de fumée, c'est sûr que pour le Parti Socialiste, il se construit, il se taille à bon marché un costume de gauche, hein, sur le mariage gay, etc. Et l'opposition virulente, hystérique de l'extrême droite lui permet d'apparaître comme un parti de gauche. Ce qu'il a beaucoup de mal à faire quant aux mesures sociales et économiques qui sont, elles, carrément libérales de droite. Bon, admettons que ça soit pas une manœuvre, que ça soit simplement une maladresse, c'est-à-dire que le Parti Socialiste excite et permet à l'extrême droite d'avoir une tribune sans pour autant faire une politique de gauche. Bon, je pense que c'est plutôt une maladresse insigne, c'est-à-dire prêter le flanc au discours de droite, redonner une vigueur, parce qu'en fait, l'UMP aussi a exploité pour se redonner en quelque sorte quelques arguments et quelques réalités, parce que l'UMP était arrivé un petit peu à un point aussi d'affaiblissement. Et donc Copé et la bande de l'UMP ont saisi l'occasion de se redonner un petit peu de vigueur à la faveur des manifestations contre le mariage homosexuel. C'est pas le fond de l'affaire, en fait. L'extrême droite, elle, s'est emparée de ces manifestations assez massives pour reprendre la parole et se réorganiser.
Cela dit, c'est bien pratique, puisqu'on remarquera au passage que l'UMP ne critique en aucun cas la politique économique, sécuritaire et sociale du soi-disant Parti Socialiste actuellement au pouvoir. Donc le mariage homosexuel, c'est formidable, c'est notre affaire Dreyfus à nous, c'est notre loi de 1905. Ça permet de créer un vrai faux clivage, quoi.
On peut commencer à faire le parallèle historique avec l'émergence des ligues dans les années 1890, puis une deuxième vague dans les années 1920-1930. C'est que la droite actuelle, en fait, elle est dépourvue de véritable identité idéologique sur les questions économiques, etc. Entre le Parti Socialiste et l'UMP au pouvoir, trouvez-moi une grande différence sur les questions économiques.
Je me suis rendu cet hiver à Notre-Dame-des-Landes. J'ai demandé à des militants là-bas si un coup de matraque ordonné par un ministre de l'Intérieur socialiste, ça faisait moins mal qu'un coup de matraque donné par un ministre de l'Intérieur UMP. Ça fait la même bosse, hein.
Non, mais voilà, une idéologie un peu vacillante, pas très claire, pas très identifiable, une querelle de personnalité et une explosion, alors qu'il ne dit pas son nom, mais une explosion du parti actuel de droite entre différentes personnalités qui ne sont pas des leaders charismatiques extraordinaires comme dans les années 20 qu'on va voir avec Tardieu et compagnie, fait que ça ouvre un champ politique pour tout un tas de contestataires qui veulent justement redonner un virage à droite, net, massif, violent. Et tout compte fait, il y a des similitudes sur lesquelles on va revenir.
Il y a aussi un élément très nouveau qui ne nous permet pas de faire un parallèle exact entre les années 30 et aujourd'hui. C'est l'Europe. Et l'Europe dont on ne parle pas, mais qui est le fond des débats politiques en France. En gros, la droite UMP est européiste comme le Parti Socialiste. Aussi bien l'UMP que le PS se sont d'accord pour cette dissolution de la nation française, de l'État français, dans cette espèce de magma européen dominé par les grands intérêts multinationaux, le grand capitalisme et la finance. Et Le Pen est contre. Le Pen est contre. C'est-à-dire que Le Pen représente le nationalisme encore. Alors, est-ce que ce nationalisme est sincère? Est-ce que Le Pen au pouvoir romprait avec la politique supranationale menée aujourd'hui?
Je traduis, de lécher le cul des banquiers et des patrons.
Ça, c'est une vraie hypothèse, une vraie question politique. Mais pour l'instant, il se présente comme étant les gens de la droite et cependant garant de l'unité et de l'indépendance nationale. Or, ça leur donne une sacrée force quand même, parce que les gens quotidiennement se rendent compte que la fusion de la France dans cette espèce d'énorme marché ouvert à la concurrence mondiale, c'est quelque part une mort, hein. C'est mort de l'emploi, mort des entreprises, liquidation de l'agriculture et toutes les merdes qu'on voit aujourd'hui qui sont liées au fonctionnement de l'Europe. Alors évidemment, ça donne d'énormes arguments. Il y a énormément de gens qui sont sensibles à ça. Oui, nous sommes, le PS comme l'UMP sont en train de nous emmener. Imaginons une opinion de classe moyenne, de petite bourgeoisie, qui ne sont pas à gauche, mais qui dénoncent l'ultralibéralisme UMP qui enfonce la France dans ce système. Parce que n'oublions pas que De Gaulle, lui, il était contre ce système d'Europe fédéraliste, de grand marché, etc., ouvert à tout vent, etc. De Gaulle, certes, acceptait l'Europe des six, mais d'abord une Europe très étroite, et ensuite une Europe qui n'était pas ouverte au capital américain, anglo-saxon, etc., et international, etc. Et ce gaullisme-là a disparu au profit d'une droite UMP décomplexée, qui, elle, a parfaitement accepté les multinationales, les paradis fiscaux, la domination des banques et de la finance internationale par l'intermédiaire de Bruxelles. Et là, Le Pen, elle a un boulevard ouvert devant elle.
Si on fait exception du front de gauche, Marine Le Pen est la seule à poser le problème de fond européen.
La voix
off. Et une polémique.
Cette vaste arnaque, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur nous ?
Il s'agit d'un trucage.
Dérisoire.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Quelle vision de l'Europe défendez-vous ?
Une Europe de la barbarie. Une Europe qui permette à chaque État-nation de prendre le pouvoir contre les peuples. Un super État totalitaire, dramatique. Mais surtout, l'Union européenne a une vision, une idéologie qui consiste à supprimer des chômeurs immigrés de plus en plus sauvages. Voilà.
Bien que M. Le Pen soit votre père, êtes-vous toujours en accord avec ses propos ?
Ah, pas du tout. Je dis à tout le monde que Jean-Marie Le Pen, il ment aux Français. Et voilà. Et je crois que Jean-Marie Le Pen n'est pas viable sans contrôle. Voilà.
C'est un montage.
Réunis autour de ce micro, nos amis historiens André et Cédric, pour une nouvelle, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, histoire des extrêmes droites en France. On l'a déjà évoqué au cours d'émissions précédentes, Cédric. La France est l'un des berceaux du fascisme, hein, fascisme qu'on peut d'ailleurs écrire à la française, hein, CH. Avec une orthographe française, pas besoin de nous faire croire que c'est une saloperie importée d'Italie. Le fascisme en France, l'extrême droite en France, une vieille histoire. On va parler des ligues. Qu'est-ce qu'une ligue, Cédric ?
Alors d'abord, il faut bien différencier la ligue du parti. Un parti politique a pour objectif de se présenter à des élections et de présenter un programme de gouvernement. Son but est de gérer l'État. Et donc, il a une vision complète de l'organisation de la société, de l'État, de l'économie, etc. Une ligue, c'est pas du tout ça. Une ligue, c'est une association de personnes qui se regroupe autour d'une thématique précise et qui a pour but de faire triompher cette thématique et d'imposer cette vision-là à l'État. Alors, c'est une vision très particulière. Et souvent, on a aussi la ligue à l'extrême droite, mais bon, faut pas oublier qu'il y a des ligues apolitiques, la ligue contre le cancer. Pour être politique, ou bien vous pouvez avoir des ligues de gauche en 1898 et fonder la Ligue des droits de l'homme dans la mouvance de la défense de Dreyfus. Mais là, si on prend les ligues d'extrême droite, il y a un premier foisonnement dans les années 1890. 1889-1902, on a une première profusion de ligues, parmi elles des ligues qui avaient au moins le mérite d'annoncer la couleur, hein, la Ligue des Patriotes, la Ligue antisémite et la Ligue plébiscitaire. Voilà, au moins ils annonçaient la couleur directement, c'était pas comme avec le mariage gay là, hein, où ils se renferment derrière des mots un peu plus passe-partout. Alors pourquoi ce surgissement là dans le champ politique des ligues à ce moment-là ? D'abord c'est lié à une inflexion de la droite française de cette époque-là, qui, avec le ralliement de Léon XIII en 1893, accepte majoritairement les institutions républicaines. Les partis de droite disent que le combat ne doit plus être mené sur le type de régime politique, donc ils abandonnent progressivement le monarchisme et laissent tomber les Bourbons, hein, qui se sont pris les pieds dans le tapis quelques années plus tôt, alors qu'ils avaient eu maintes fois l'occasion de prendre le pouvoir. Et cette droite qui devient tout compte fait classique, accusé justement d'être un peu bourgeois, va se mettre dans le jeu parlementaire. Et cette droite voit le parlementarisme comme un moyen de domestiquer en fait les forces populaires, forces aveugles, et se disent qu'une bonne république conservatrice, tout compte fait, ça défendra les intérêts du patronat, ça défendra les intérêts de la petite bourgeoisie. Et ensuite, s'il pouvait arriver au pouvoir, justement, se donner un visage un peu présentable, en oubliant ses querelles sur la nature du régime, s'il pouvait, donc, en mettant ça de côté, arriver au pouvoir pour donner une petite inflexion bien cléricale, bien conservatrice sur la famille, etc., tout compte fait, l'objectif serait atteint et on pourrait se complaire dans une république moderne. Sauf que, face à cette dynamique-là, eh ben, y a une partie de la droite qui refuse, notamment les plus jeunes, ou bien les plus vieux. On va trouver des gens comme alors des vieux monarchistes, hein, des vieux monarchistes qui refusent, et qui, voilà, ne pouvant plus agir politiquement, vont agir par la Ligue. Alors, c'est quoi ces Ligues ? Tout compte fait, c'est des mouvements qui refusent la culture républicaine dans ces années 1890 et qui, plutôt que de s'empêtrer dans des débats parlementaires qu'ils vomissent, hein, leur point commun, c'est qu'ils vomissent le parlementarisme, vont se réfugier dans l'action de rue, dans l'action brutale, dans l'action de propagande et vont mener des actions très violentes. Alors, l'actualité de l'époque, hein, leur fournit bien des motifs, hein, de se faire voir, hein, entre l'affaire de Panama, Boulanger, l'affaire Dreyfus, tout un tas d'affaires politico-judiciaires qui mélangent effectivement la corruption, hein, des républicains, leur sympathie supposée pour la juiverie internationale. Tout ça, effectivement, va faire émerger ces ligues. Ensuite, il y a un deuxième temps d'émergence des ligues, ça va être la fin des années 20. Fin des années 20 et les années 30.
Ce qui s'est passé un événement majeur entre les deux, c'est la Première Guerre mondiale.
La Première Guerre mondiale est un événement majeur, pour ça comme pour autre chose d'ailleurs, dans tous les aspects de la vie publique et privée, etc. D'abord, il y a un massacre, c'est un grand massacre, 14-18. Et après ce massacre, il se constitue des mouvements d'anciens combattants. Deux mouvements d'anciens combattants en France qui vont se créer. Un mouvement qui est un mouvement conservateur mené par la droite, nationaliste, patriotique et conservateur sur le plan social. Et un mouvement mené par les communistes, l'association républicaine des anciens combattants, la RAC, qui elle est plus internationaliste, pacifiste, plus antimilitariste, etc. Mais celle qui est majoritaire, c'est celle de la droite. Alors, à l'intérieur, il se crée des mouvements beaucoup plus élitistes, comme les Croix de Feu. Les Croix de Feu, au départ, du colonel de la Roque, ne groupaient que les gens qui avaient été en première ligne, qui avaient été dans les unités combattantes de première ligne, l'élite, en quelque sorte, de l'infanterie, etc.
Et décoré de la Croix de Guerre.
C'était un petit mouvement. Ça va s'élargir un peu par la suite. Et ces anciens combattants prétendent avoir droit au chapitre dans la vie politique française. Ils disent, nous avons donné notre sang, etc., nous avons défendu la patrie, il faut qu'on nous écoute maintenant. Hein, on ne peut plus laisser faire les choses qui se sont faites auparavant, etc. Et plus jamais ça, d'abord, hein, la der des der, bien sûr, et puis l'Allemagne paiera, et puis ils vont soutenir la politique très conservatrice et très réactionnaire de Poincaré, etc., de la droite essentiellement. Et dans les années 30, ces mouvements évoluent vers des formes fascistoïdes.
C'est ce que Georges Mauss a appelé la brutalisation. Alors, concept très discuté parmi les historiens. Qu'est-ce qui était intéressant dans sa thèse ? C'est de montrer que, effectivement, il y a toute une frange de l'opinion publique qui a été forgée, hein, par le fer et par le sang, hein, de la guerre, et qui, tout compte fait, se méfie des intellectuels, se méfient des gens qui discutent, et ils veulent faire primer l'action à la réflexion, en disant que eux, ils savent ce que c'est la vie, ils savent que c'est la mort, et à ce titre-là, ils sont plus légitimes que le citoyen lambda pour diriger le pays. Et quand ils basculent à droite, ils sont confrontés à un éclatement du champ politique à droite. Alors, les années 20, c'est les années des droites, hein, qui dominent très largement la politique, hein, la Chambre Bleu Horizon, etc., malgré la petite encart du cartel des gauches entre 24 et 26. Et ils sont confrontés donc à un éclatement du champ politique à droite, avec tout un tas de personnalités assez ternes, sans grande envergure, et qui s'empêtrent dans le jeu parlementaire, au jeu des chaises musicales, à qui aura le pouvoir. Or, tout le monde est d'accord, à gauche comme à droite, pour critiquer quoi dans la Troisième République ? La faiblesse du gouvernement et du président du Conseil, pouvoir exécutif trop faible, hein, face à un parlementarisme échevelé, un parlement qui est surtout un endroit où les gens défendent des intérêts locaux et non pas un intérêt national, Et troisième élément, une bureaucratie extrêmement pesante qui a la réalité du pouvoir en France, vu l'inefficacité du pouvoir exécutif. Et donc, il y a un appel, une aspiration à une reprise en main, à la mise en place d'un pouvoir exécutif un peu plus fort. Et ça, ça correspond à des valeurs de droite, l'autorité, la hiérarchie. Sauf que les partis de droite ne font pas le boulot. Alors c'est plus une querelle de génération. Il y a des jeunes, hein, justement, qui ruent un peu dans les brancards, mais les partis sont toujours tenus par des gens qui ont une cinquantaine d'années, des bons patriarches qui voient d'un très mauvais œil ces jeunes troublions. Et ces jeunes troublions, bah, pour une partie d'entre eux, bah, ils vont sortir des partis. Et on va les retrouver dans des ligues. Et donc, on va avoir effectivement des combinaisons assez savantes, alors très mouvantes, hein, ces ligues, hein, ce qui les marque leur histoire, c'est des crues et des décrues de leur effectif extrêmement rapides, des naissances et des morts avec des gens qui sautent, hein, de ligue en ligue, de parti en parti, on les retrouve un petit peu partout. Et donc, au profit d'un changement dans les années 30, qui correspond à quoi ? La crise économique, une crise morale, l'affaire Stavisky, etc. La menace du retour de la gauche au pouvoir, qui devient ensuite une réalité, hein, cette gauche au pouvoir, avec l'ombre communiste, hein, rampante, hein, parce que les socialistes, effectivement, font alliance, hein, avec les communistes. Enfin, l'alliance se dessine déjà des 34-35, quand on voit l'alliance arriver, avec la fin de la logique classe contre classe, et avec l'acceptation du Parti communiste de la stratégie de Front populaire. Face à ces menaces, les ligues vont être, pour tout un tas de gens de droite révolutionnaires, vont être un moyen d'expression. Alors, pour faire simple, on peut dire qu'il y a eu 5 grandes ligues. Alors justement, factieuses, fascistes, fascistoïdes. Alors, il y en a deux ligues qui sont ouvertement fascistes. C'est le francisme de Bucard et les solidarités françaises de Coty. Alors eux, ils sont ouvertement fascistes, hein, ils ne se cachent pas.
Ils font
pas
comme Mussolini, chemise brune, bras tendus et tout le décorum. Hein.
Et idéologiquement, ils s'alignent aussi sur ça. Parce que finalement, tout le décorum, toute la geste, on les retrouve dans toutes les ligues. Au passage aussi, dans des groupements d'extrême-gauche, où on retrouve l'ordre, l'habit, etc. Il y a toute une espèce de fascination pour ce côté très ordonné des choses.
Le menton pointé vers un avenir radieux.
Voilà, il y a ce côté. Alors, par contre, il y a trois autres mouvements vraiment d'importance. Alors, tu as évoqué les Croix de Feu, hein, qui, justement, on pourra peut-être l'évoquer, dissolution ou pas des ligues actuelles, qui, lorsqu'elle a été dissoute en 1936, s'est mutée en parti, le PSF, le Parti Social Français. Alors, on n'en a jamais eu la preuve, parce que tout compte fait, les élections législatives n'ont pas été organisées. Les élections législatives auraient dû avoir lieu en 1941. Donc, la guerre a fait que, il n'a pas lieu. Mais on a pas mal d'outils de recherche qui nous montrent, et des sondages de l'époque, qui nous montraient que le PSF recrutait massivement et risquait d'être, aux élections législatives de 1941 qui n'ont pas eu lieu, le premier parti en France, montrant effectivement l'audience qu'il pouvait avoir et le prestige qu'avait le colonel de la Roque, hein, qui était un personnage de premier ordre. Alors, deux autres mouvements, la Ligue d'Action Française, alors là qui correspond à tout compte fait et qui a récupéré des morceaux de l'Action Française qui a été condamnée en 1926 par le pape et qui a récupéré des morceaux en fait de l'Action Française qui a connu un gros coup d'arrêt après sa condamnation par le pape en 1926 et donc qui s'appuie sur une idéologie relativement conservatrice et traditionnaliste et dans laquelle on retrouve toute la logique antilibérale, antisémite, un nationalisme agressif et tribal. Donc c'est une alliance de la vieille droite réactionnaire et légitimiste et de la nouvelle droite années 30 qui emprunte des choses au fascisme, hein, par un espèce de nationalisme agressif et au nazisme par l'antisémitisme. Et l'autre groupe, c'est les jeunesses patriotes qui se définissent comme telles, alors c'est leur profession de foi, hein. C'est un groupement de citoyens français pour la défense du territoire national contre les dangers de la révolution intérieure et pour le perfectionnement de nos institutions. Alors, c'est intéressant parce que si on regarde un petit peu ce mouvement, on se dit c'est des fascistes. Alors, ils marchent au pas de loi, chemise brune. Et en fait, ils disent non, on n'est pas l'extrême droite. On est la vraie droite. La vraie droite qui est trahie par les partis. On n'est pas Hitler, tout ça, c'est pas notre tasse de thé. Et nous, on défend la vraie droite. Et leur but, en fait, c'est de faire pression sur la droite pour qu'elle accepte des alliances. Là, entre des gens qui sont jusque-là très divisés, pour constituer une espèce de grosse alliance qui va des radicaux, de l'aile droite des radicaux, jusqu'à l'extrême droite, 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 enfin tout au bout. Et justement, le parallèle, enfin, je sais pas, on peut en parler, le parallèle qu'on peut faire, c'est que justement, ces mouvements-là qui sont nés, mouvements, comment ça s'appelle, le printemps français, je sais plus trop quoi, là, on les voit bien dans une espèce de stratégie de main dans la main entre l'UMP et le Front National, en disant, voilà, sur des valeurs telles que la famille, tout compte fait, on est relativement proches, et ils jouent le rôle de passerelle. Par leur action violente, ils se veulent des dynamiteurs, des dynamiseurs de l'espace politique de droite.
On remarquera au passage très rapidement que ces gens du printemps français, là encore j'ai eu manqué de vomir en écoutant la radio, se présentent comme des résistants. Hein. Ces gens-là évoquent l'esprit du maquis des Glières, du Vercors, de cette France éternelle qui résiste à l'oppresseur et machin. Sacrément culotté hein, de la part de gens qu'on peut soupçonner d'être des fascistes, se réclamer de la résistance ne manque pas de culot ni de toupet.
Cela dit, ce n'est pas nouveau. Pétain, lorsqu'il met en place sa politique en 1940, l'intitule « Révolution nationale » et s'empare des oripeaux de la Révolution française.
Je crois que les nazillons actuels de Serge Ayoub et compagnie se réclament aussi de la Révolution. Hein. Il y a Révolution dans leur nom. De...
Ajouter à cette remarque, le programme du parti fasciste en 1919 est un programme dont certains points sont directement empruntés au programme des anarchistes et des socialistes. Même chose pour le petit parti ouvrier, le parti NSDAP de Hitler, enfin que dont Hitler va s'emparer. Eh bien, en 1919, le NSDAP a un programme qui emprunte une partie de ses revendications à l'extrême gauche allemande.
Dans national-socialiste, il y a socialiste.
À mon avis, c'est ça qui caractérise de toute façon l'extrême droite.
Si je peux même aller plus loin, Daniel Mermet, dans son émission Là-bas si j'y suis, a récemment raconté qu'il a interviewé un ex-nazi défroqué qui disait qu'ils allaient puiser de la nourriture intellectuelle, des faits, des sources dans le monde diplomatique.
C'est ce qui caractérise le discours. Il est très difficile d'analyser un discours de Mussolini ou même parfois un discours de Hitler ou des idéologues du fascisme parce qu'il y a une grande confusion. Cette confusion, elle est due au fait qu'il faut faire du nouveau avec du vieux. Hein, et il faut essayer d'apparaître, hein, c'est un travail sur l'image, c'est un travail sur l'apparence, apparaître révolutionnaire quand on est ultra-conservateur ou réactionnaire même. Or, c'est ça, l'extrême droite.
Parce qu'on ne doute pas un instant que si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, elle continuerait à lécher le cul des banquiers et des patrons, comme ça se fait actuellement. Le grand capital n'a pas à s'en faire, hein, si non, ces gens-là...
C'est comme les Tea Party américains. Voilà, ils se présentent comme des révolutionnaires, des gens qui vont secouer le cocotier. Mais en fait, on regarde, c'est des gros réacs, quoi. C'est des gros réacs. Et si on fait le passage avec les années 30, justement, toute cette nébuleuse fascistoïde, très révolutionnaire, etc., ils s'adressent à qui ? À des classes bourgeoises, à des classes moyennes, des classes populaires supérieures.
Les gens méritants hein, qui ont économisé et qui ont peur qu'on nationalise leur pavillon de Molière. Hein.
Et qui réclament une stabilité politique, une stabilité sociale et une stabilité sociétale. C'est des conservateurs réactionnaires qui s'habillent avec les oripeaux voilà, du dynamisme, de la jeunesse, de la révolution. Mais c'est du pipeau. C'est des gros réacs.
Tout ça n'est pas très propice ni très favorable aux petites gens.
Les communistes qu'ils soient les communistes soviétiques ou français des années 20, quelle est leur analyse sur le fascisme ? Ils l'analysent de la façon suivante, ils disent « c'est la partie la plus réactionnaire, la plus violente, la plus brutale » de la bourgeoisie, du capital, qui est là pour juguler la classe ouvrière et maintenir les intérêts de la grande bourgeoisie. Sur la base de cette analyse, qui n'est pas fausse, ils vont adopter une stratégie au départ, classe contre classe, dont parlait Cédric tout à l'heure, qui exclut l'alliance avec les libéraux contre le fascisme naissant. Cette stratégie va évoluer, évidemment, avec Dimitrov, au sein même de l'Internationale communiste, on va prendre conscience, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir qui va en quelque sorte obliger les communistes, aussi bien en France qu'en URSS, à évoluer, c'est-à-dire que se contenter de cette stratégie pure et dure conduit à l'échec, comme en Allemagne, comme en Autriche, etc., et à l'extermination des partis communistes. Donc, ils évoluent vers une alliance avec les gens qui peuvent faire alliance avec les communistes, c'est-à-dire les socialistes, de façon à empêcher Et c'est la stratégie de Front Populaire qui va s'imposer à partir de 1934-36 en Espagne. Cela dit, cette stratégie de Front Populaire, n'oublions pas, rappelons qu'elle est réfutée par l'Internationale Socialiste. L'Internationale Socialiste a toujours refusé l'alliance avec les communistes, même contre le fascisme. Mais elle s'imposera en France, en Espagne, puis en France. Mais dans d'autres pays, elle sera refusée, carrément. La gauche restera divisée en face du fascisme.
À Madrid, 230 000 hommes participent à la parade de la victoire. 25 000 Italiens et 2 500 Allemands ont défilé les premiers devant le général Franco, entouré de son état-major et en présence des membres du corps diplomatique où la France est représentée par le maréchal Pétain.
Mais pour revenir au fond de l'affaire, c'est-à-dire définir la nature sociale, de classe, politique du fascisme, bien sûr c'est un des versants de la droite. Le but est le même, il n'y a que les moyens qui changent. Et le fascisme vient remplir un vide dans la droite conservatrice, plomb-plomb, libérale, qui se contente des institutions et de maintenir ses intérêts par les jeux des institutions normales. Ces gens-là proposent un autre modèle, qui est en même temps un modèle très technocratique, très moderniste, et en même temps un modèle d'action politique violente. Il y a les deux choses ensemble, c'est lié. On verra très bien ça dans le pétainisme. Le pétainisme, c'est vraiment ce qu'il faut étudier si on veut pouvoir aujourd'hui étudier l'extrême droite française.
À Paris, au Palais Berlitz, vient de s'ouvrir l'exposition « Le Juif et la France », où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Il prouve combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Tous les postes de commande de la Maison France se trouvaient entre les mains des Juifs.
Tous les ministres et hauts fonctionnaires devront me prêter serment de fidélité et s'engager à exercer les devoirs de leur charge pour le bien de l'État, selon les lois de l'honneur et de la probité.
D'ouvrir un nouveau chemin en suivant le grand chef sublime qui nous a montré le chemin.
Le pétainisme, ça a quand même été un système politique, ça a été des institutions politiques, ça a été un gouvernement qui a permis de rassembler aussi bien l'extrême droite la plus violente, la plus antisémite, la plus brutale, et la droite conservatrice. Tout le monde s'est retrouvé derrière Pétain, sur les mêmes objectifs. Et derrière le discours lénifiant, pacifiste, etc., de Pétain, de retour à la terre, etc., de bucolisme, etc., il y avait le CNPF de l'époque. Il y avait Pucheux, il y avait le I2, il y avait des gens qui étaient sortis de Polytechnique.
C'est le patronat. Hein.
C'est le patronat. Des gens très très intelligents qui, dès avant la guerre, dès 1938, avaient déjà constitué des cénacles de patrons, de décideurs, qui avaient décidé de se faire la Troisième République, d'avoir la peau de la Troisième République. Et ces gens-là rejoignaient l'extrême droite, monarchistes, etc., anti-parlementaires, qui eux aussi voulaient la peau de la Troisième République. Et c'est ces gens-là qui ont eu le pouvoir entre 40 et 44.
D'où le cri de guerre de ces gens-là à l'époque, plutôt Hitler que le Front Populaire. Et puis pour clore sur ce que tu disais, hein, s'il y a encore des ouvriers ou des gens comme ça qui se bercent d'illusions à croire que le fascisme leur est favorable, il n'y a qu'à étudier l'histoire. Partout, il y a eu des régimes fascistes, Franco, Pétain et compagnie. Ça n'a jamais été bon pour les petites gens, les travailleurs, etc. Dissolution des syndicats, des droits des travailleurs.
Le droit social, régression dans tous les domaines. C'est une catastrophe pour la classe ouvrière, pour les travailleurs, pour les salariés, évidemment.
Donc la synarchie, bah, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, à savoir effectivement ces organisations plus ou moins institutionnelles de grands patrons qui avaient fait le choix de la défaite, pour reprendre un titre
de l'historienne Annie Lacroix-Riz,
qui a publié sur Internet des documents concernant Louis Renault, datant d'avant la guerre. Là, c'est des archives, c'est pas d'interprétation, je ne sais quoi. Des archives montrant que Renault a, de façon volontaire, fabriqué moins de chars qu'il ne le pouvait, puisqu'il en fabriquait un tous les 10 jours, alors qu'il pouvait en fabriquer un toutes les 10 heures. Mais qu'il a fait le choix de la défaite en faisant tourner ses chaînes au ralenti de façon volontaire. Mais pour revenir toujours sur l'histoire, pour faire le parallèle avec aujourd'hui, c'est que ces ligues mènent des actions violentes dans la rue. Elles veulent prendre et tenir la rue et agir violemment dans la rue contre qui ? Les youpins, comme on disait à l'époque, les youpins, les gauchistes, et on va les chercher et on va leur taper dessus. Et il y a des manifestations extrêmement violentes, alors dans le quartier latin, il y a des répressions de grève, il y a des répressions de manifs aussi, et à Paris, si on reprend les parcours que faisaient ces ligues, rue de Rivoli, statue de Jeanne d'Arc, place de la Concorde, Champs-Élysées, Arc de Triomphe, tiens, par hasard, où est-ce qu'ils ont eu lieu les affrontements lors de la manif contre le mariage gay? C'était oui, autour de l'Étoile. Voilà, on retrouve les mêmes lieux, les mêmes endroits, les mêmes stratégies violentes. Et sauf que là, bah, pour le pauvre Clément Méric, bah, ça a mal tourné.
La manifestation du 6 février de réprobation patriote qui a eu lieu aux places de la Concorde avait démarré dans une atmosphère de tension extrême, des perturbateurs s'y étant infiltrés, ce qui provoqua l'arrivée en masse de la cavalerie. Des actes d'une violence inouïe ont déclenché l'arrivée des fusils mitrailleurs. C'est tard dans la nuit que cette manifestation fut maîtrisée. On déplore 12 morts et des centaines de blessés.
Une histoire des ligues d'extrême droite avec nos amis historiens André et Cédric. Alors, c'est un leitmotiv de cette émission, Cédric. Pour l'historien, comparaison n'est pas raison, mais quelle filiation entre les croix de feu du colonel Delarocque, le mouvement GUDE Occident dans les années 70 et aujourd'hui les nazillons qui grenouillent dans nos rues en attaquant les Gay Pride?
Finalement, comparaison n'est pas raison. C'est pas les mêmes personnes, c'est pas exactement les mêmes idéologies, c'est pas les mêmes temps, les circonstances sont pas les mêmes. Pourtant, il y a des espèces de permanence. Il y a des liens dans le temps. C'est-à-dire qu'on retrouve d'abord des contextes relativement similaires, à savoir des moments de crise sociale, d'interrogation sur les institutions, sur l'organisation de l'État. Et toutes ces inquiétudes, effectivement, font planer des interrogations sur l'ensemble de la société. Et la société se pose des questions. À côté de ça, les partis politiques ne semblent pas apporter de réponses satisfaisantes. Et il y a un décalage entre ces inquiétudes populaire, ces inquiétudes de la population, hein, et un appareil politique et un personnel politique peu crédible, peu dynamique, vieillissant. Hein. Et à côté de ça, justement, bah, les gens s'organisent et veulent se prendre en main, décident d'utiliser des moyens d'action qui ne sont pas les moyens d'action démocratique et se disent que l'action de rue, l'action violente, est un moyen pour réveiller les gens. Très clairement, il y a une volonté d'apparaître comme une espèce d'élite qui va montrer aux gens comment il faut réagir. Et d'ailleurs, on le trouve assez bien dans tous ces mouvements anti-mariage gay. On voit très bien que le mariage gay, en fait, a servi de prétexte, de démarreur pour aller vers une action plus globale de contestation des socialistes en général, mais aussi au-delà même de la droite en général et du fonctionnement de l'État. Et quand on voit des gens comme Frigide Barjot, etc., quand même assez halluciné, enfin, dire, comment on peut se donner comme leader une gonzesse comme ça, enfin, complètement halluciné, quoi, en disant qu'il va y aller avoir du sang dans les rues, voilà, le pouvoir ne tenait pas compte de la population, et que vous allez voir ce que vous allez voir, on va faire couler le sang, bah voilà, voilà, bah, le sang a coulé, le sang a coulé. Franchement, on s'interroge aussi sur la culture politique et la culture de manifestation de ces gens. On voit des gens avec des gamins de 2, 3, 4 ans aller scoltiner avec des CRS, et ensuite venir pleurer parce qu'ils se sont pris des gaz lacrymo dans la gueule, mais il faut être complètement inconscient pour emmener une ribambelle de petits gamins qui sont par définition pour rien, qui ne comprennent pas ce qui se passe, les emmener en première ligne, aller se castagner avec les flics.
Ces gens-là étaient très étonnés, moi aussi d'ailleurs, parce qu'ils devaient croire que les CRS, ça sert qu'à taper sur les gauchistes et les syndicalistes. Et évidemment, ils ont été très surpris de se prendre quelques coups de matraque ou gaz lacrymogène.
Ils ont qu'une culture politique, ils se sont retrouvés à côté de vrais nazillons, parce qu'il y avait des gens parmi eux, voilà, qui étaient un peu des exaltés, homophobes, etc., mais
qu'on fait, pas très violent, et ils se sont retrouvés mélangés à des vrais nazillons dangereux, je sais plus comment ils s'appellent, là, ils ont été embarqués dans une espèce de dynamique, comme ça, et ils ont été scoltinés avec les flics. Et puis c'était oublié quand même un grand élément de culture politique, c'est que depuis le 6 février 34, il est interdit de manifester sur les Champs-Élysées et place de la Concorde. On n'a pas le droit d'aller manifester place de la Concorde, et ils ont pensé qu'ils allaient franchir, poussés par une espèce d'exaltation, qu'ils allaient franchir les cordons de CRS, et qu'ils allaient aller envahir l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Et on est arrivé aujourd'hui à ce mouvement. Alors, quelle va être la réaction du pouvoir? Dissolution, pas dissolution? Est-ce que la dissolution est une bonne solution? On sait que ça peut être utile. Alors, ça a été utilisé en 1936, dans le sens où, si vous êtes un groupe dissous, vous n'avez plus le droit de publier des choses, vous n'avez plus le droit de vous regrouper en tant qu'association, vous n'avez plus le droit d'avoir de financement. Donc ça permet de désorganiser pour un temps plus ou moins long ces groupes, sauf qu'on sait très bien que très vite ils vont se reconstituer sous une autre identité, avec d'autres chefs. Alors ça peut parfois entraîner des querelles, parce que justement quand on dissout, par définition on dégage les têtes et ensuite on voit des sous-chefs vouloir prendre... is no good, vouloir devenir calife à la place du calife. Donc,
on remarquera au passage quand même que, même si le bilan du Front Populaire peut être critiqué ou critiquable, en attendant, ces gens-là étaient de gauche, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont dissous. Hollande, lui, il est en train de se...
C'était dans le programme, dissolution de la Ligue fasciste, c'est un point du Front Populaire, et il l'applique directement. C'est voté au mois de juillet, juillet 1936, boum, toutes les ligues sont dissoutes. Ça a eu quand même son utilité, même si on l'avait dit, le PSF, le Parti Social Français, renaît sur les cendres des Croix de Feu. Alors ensuite, est-ce que Valls va le faire? A priori, il y a un mouvement qui va être dissous, là. Pour quelle utilité? C'est un débat. Il y en a qui sont contre la dissolution, en disant que ça fait plonger dans la clandestinité. Par définition, s'ils sont clandestins, ça sera plus difficile de les repérer, de les ficher et de connaître leur véritable action. Voilà, débat. J'avoue que je n'ai pas un avis tranché sur la chose.
La condamnation est la plus ferme qui soit. Et ces groupes qui, depuis trop longtemps, créent le désordre, doivent être réprimés. Maintenant, je vous le dis, l'enquête est en cours et n'allons pas plus vite. Et faisons en sorte de ne pas créer un climat qui est déjà trop lourd.
Dernière ligne droite dans cette émission consacrée aux ligues d'extrême droite en France avec notre ami André. Tu nous as souvent mis en garde, André, sur le fait que les frontières entre l'actuel UMP et le Front National sont extrêmement poreuses. On attend avec impatience une alliance des amis de Jean-François Copé et de Marine Le Pen pour 2017. Cela dit, cette porosité, ce va-et-vient entre l'extrême droite et la droite, c'est déjà vérifié, notamment dans les années 70, puisqu'on parlait des ligues. Je voudrais qu'on revienne très rapidement sur le parcours de gens comme Gérard Longuet ou Devedjian, qui, dans leurs jeunes années, faisaient partie de ligues fascistes. Il y a eu le GUD, il y a eu le mouvement Occident, ça c'était dans les années 70. En France. Et puis les Devedjian, Longuet et compagnie ont été gentiment récupérés ce qui est devenu l'UMP par la suite.
Oui, d'ailleurs, ils n'ont pas été récupérés tout de suite par le RPR. Ils ont été récupérés par le patronat. C'est par le biais d'organismes du CNPF, enfin du MEDEF, quoique ça s'appelait, je crois, encore le CNPF dans les années 70, Conseil National du Patronat Français. Le mot patronat a disparu. On fait disparaître les choses avec les mots, Ou du moins, on prétend les faire disparaître. On va dire le patronat, pour être clair. Les organismes patronaux ont récupéré ces petits jeunes gens dynamiques et pleins d'idées et pleins d'initiatives et les ont refilés à la droite, les ont refilés au RPR. Et effectivement, ces gens sont devenus députés, présidents de conseils généraux, ministres, etc. Parmi ces gens-là, il y a des gens quand même qui ont eu des fonctions importantes. Madelin, Devedjian, Longuet, et je dois bien oublier qu'il y a une bonne demi-douzaine encore, je parle des plus célèbres. Donc ça veut dire que ces gens-là sont parfaitement solubles dans la droite traditionnelle, ordinaire, celle qui est convenable, qui est fréquentable.
Et inversement.
Ben oui, bien sûr, mais je pense qu'effectivement, on a dit tout à l'heure que ce qui importe, ce sont les objectifs. C'est pour qui ces gens-là se battent, et ce qu'ils veulent faire. bon, pour qui ils se battent, et ils se battent pour le grand patronat, pour le capital, pour la grande bourgeoisie, et tout est bon en quelque sorte. L'avantage évidemment de l'extrême droite, c'est que ça permet de faire voter une partie des pauvres pour les riches. C'est formidable, la grande magie de la démocratie moderne. On prend les apparences d'un mouvement populaire, et ça permet comme ça de récupérer une partie des voix des pauvres, des gens modestes, des travailleurs, au profit de la grande bourgeoisie. Hein, faut pas oublier que ça a été ça la fonction essentielle du fascisme, en quelque sorte. Hein. Et, bon, non seulement on liquide la gauche, on la liquide physiquement, hein, on la liquide légalement, mais on la liquide aussi par tous les moyens. Et en même temps, on fait voter les pauvres pour le grand capital. C'est sensationnel. Et je pense que c'est toujours le projet qui est en vue. Hein. Marine Le Pen va permettre de ramasser les voix populaires nécessaires pour que l'UMP puisse continuer, enfin les gens de la grande bourgeoisie puissent continuer à gouverner en quelque sorte. Parce qu'il est évident que si l'électorat, tout le monde comprend ça, si l'électorat de la droite se limitait au conseil d'administration, aux PDG, aux financiers, aux banquiers, aux bourgeois. Bon, si on regarde la pyramide des fortunes françaises ou des revenus, bon, toute la droite ne réunit pas 20% de la population. La plupart des gens sont des salariés, des gens modestes. Sociologiquement, la droite, elle n'a jamais la majorité. Il lui faut donc, par un artifice, récupérer soit par besoin de sécurité, de conservation sociale, soit par l'action de l'extrême droite, hein, l'extrême droite qui est populaire, hein, Marine Le Pen se bat pour les ouvriers, tout le monde se marre, quoi, hein. Marine Le Pen, hein, fille d'un richissime bourgeois, hein, Le Pen est une grosse fortune et fréquente les grosses fortunes, ce sont des gens de la bourgeoisie, hein, de la bonne grosse bourgeoisie française. On imagine difficilement ces gens se battent pour le prolétariat français. Mais, je vous répète, l'Europe permet à ces gens-là, les problèmes causés par les bouleversements causés à la société, à l'économie française, par l'intégration dans cette Europe capitaliste, donnent un véritable boulevard à l'extrême droite nationaliste, dans son discours en tout cas.
Pour clore cette émission, André, point qu'on a déjà souvent évoqué dans cette émission, mais il y a un tour de passe-passe dans les manuels d'histoire pour nous faire croire que le fascisme, c'est une saloperie étrangère. D'ailleurs, si vous tapez « fascisme CH » sur votre correcteur orthographique d'ordinateur, il va se souligner en rouge, parce que CH, c'est à la française. Et non, le fascisme, c'est pas de chez nous, mon brave monsieur, c'est une saloperie italienne. C'est pour ça qu'il faut l'écrire « fascisme », n'est-ce pas ? Or, on l'a déjà évoqué, le fascisme, dans ces années 20, 30, c'est un truc qui marchait tellement fort et du tonnerre de Dieu qu'il y avait trop de leaders pour que finalement un Hitler se dégage du lot. Un autre historien qu'on a souvent cité dans cette émission, l'historien israélien Zev Sternel, spécialiste de ces mouvements et notamment de l'occupation en France, lui avance que la France est une terre de fascisme, est l'un des berceaux du fascisme.
Oui, c'est d'ailleurs très convaincant la thèse de Sternel. Dans son petit ouvrage « Ni droite ni gauche », il démontre brillamment, hein, et les travaux de ses étudiants convergent vers les mêmes conclusions, que le corpus idéologique, le discours fasciste, celui qui est développé par Mussolini au pouvoir, c'est né en France, c'est pas né en Italie. C'est né en France, c'est né avant la guerre 14, il y a déjà toutes les idées du fascisme. Et il le démontre de façon brillante, et il cite les sources idéologique du fascisme. Or, ce sont des sources françaises, Lebon, Sorel, etc. Bon. Alors, bien sûr, ça froisse un certain nombre de susceptibilités, d'abord parce que...
Bon, quand même le pays des droits de l'homme, quoi.
Ben oui, bien sûr. Et puis, bon, une partie du fascisme vient de l'extrême-gauche anarchiste.
On va encore se faire des copains, là.
Non, mais les anarchistes d'aujourd'hui, fort estimables, hein, que je ne veux absolument pas attaquer ou mettre en cause, ne sont pour rien dans ça, mais ça, c'est les cercles Proudhon, qui étaient des cercles anarchistes, ont alimenté en partie le discours fasciste qui va se développer dans les années 20. Et le corporatisme, quelque part, certains refus de la lutte des classes, etc., bon, une partie du discours vient de là. Maintenant, bon, il y a aussi le nationalisme, il y a aussi bon, la xénophobie, le racisme, le eugéniste, etc. Bon, tout ça vient d'ailleurs, de d'autres ressources. En fait, c'est une synthèse. Le fascisme est une synthèse. Hein, il s'agit d'une synthèse de mouvements idéologiques nés à la fin donc, du 19e, avant la guerre 14, et qui vont être réutilisés par Mussolini. C'est pas faire insulte aux anarchistes de dire que Mussolini a été anarchiste, a été anarcho-syndicaliste. Bien sûr, il ne l'a plus été à partir du moment où il a élaboré, il est passé au fascisme, à la politique qu'il a élaboré lui-même, mais n'empêche qu'il vient de l'extrême gauche. Donc, bon, il faut en être conscient et le dire, quoi. Bon. Quant à la France, bien sûr, terreau du fascisme, c'est évident. On n'a pas eu besoin de Mussolini pour inventer l'extrême droite. Les mouvements anti-Dreyfusard étaient déjà pré-fascistes, c'est certain. Dans le discours, dans l'action, dans les propositions qui étaient faites, c'est un mouvement qui est fondamentalement hostile aux idées issues de la Révolution française et du XVIIIe siècle. Antidémocratique, anti-souveraineté nationale, c'est ça qui est fondamental. L'antiparlementarisme vient d'une haine des systèmes représentatifs, des systèmes démocratiques, de l'idéologie de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, etc. C'est pour ça qu'il est extrêmement, à mon avis, délicat. Aujourd'hui, j'entendais, il y a quelques années, Glucksmann et Bernard-Henri Lévy faire remonter le totalitarisme à Jean-Jacques Rousseau et à la Révolution française. Ces trous du cul-là font un mal gigantesque, quoi, parce que, d'abord, c'est totalement crétin sur le plan de l'analyse philosophique de faire remonter le totalitarisme aux grands penseurs du XVIIIe siècle. Mais en plus, c'est dangereux, parce que ça donne des armes à l'extrême droite d'aujourd'hui, hein, c'est évident. Donc, dans les années 20, évidemment, le fascisme, ou du moins les formes approchées du fascisme, l'exigence de précision de certains historiens est tout à fait légitime, mais il faudrait quand même essayer d'être un peu plus vrai aussi dans son analyse. Bien sûr, si l'on définit le fascisme uniquement par certains critères vestimentaires, on réduit le fascisme en France à relativement peu de choses, ou au contraire, on l'étend à ce qui n'était pas. Mais si on définit le fascisme comme un mouvement politique, idéologique, philosophique, prônant des formes d'action très particulières et destinées à supprimer un système libéral de représentation démocratique et liquider la gauche, à partir de ce moment-là, on peut dire aussi que le franquisme était un fascisme. J'ai vu une thèse d'un historien réputé français sur le franquisme.
Tu vas encore dire du mal de Pierre Milza?
Non, je ne pensais pas à Milza. Bien qu'on peut le mettre dans cette catégorie-là, Milza, lui, considère que le fascisme, c'est l'Italie, point. C'est un grand spécialiste, d'ailleurs, du fascisme italien. Mais en revanche, il a tort quand il réduit le fascisme uniquement au cas italien. Et à mon avis, c'est une erreur grave, gravissime. Alors ça veut dire que Franco n'était pas fasciste. C'est jamais complètement innocent, cette histoire de définition du fascisme. Parce que si nous disons Pétain était un régime globalement fasciste, ou si nous disons Pétain n'était pas un régime fasciste, ça change quand même beaucoup de choses sur les enjeux actuels, parce que beaucoup de gens collaboraient avec Pétain. Dire que des gens collaboraient avec un régime fasciste, c'est pas la même chose que de dire que des gens collaboraient avec un régime conservateur, catholique, traditionnel, autoritaire. C'est pas la même chose. Ça mouille moins quand même, hein? Vous comprenez? Et moi, je pense que c'est un petit peu ça le problème. Non, on n'a pas été fasciste. Hein. On a juste été pétainiste. Non, on n'a pas été fasciste. On a juste été franquiste. C'est pas la même chose vis-à-vis du jugement de l'histoire. Et je pense que ça permet de dédouaner un certain nombre de salopards qu'on trempait dans la sauce fasciste, mais qui veulent pas le dire.
Alors André, on a bien compris que le fascisme est un phénomène qui se nourrit du terreau de la misère, de la crise, des inégalités, et que la meilleure manière de combattre le fascisme, ce serait tout simplement d'établir une société plus juste. Avant d'arriver à cette société, à cette utopie, hein, forcément réalisable, on y croit très fort, ces fascistes, ces ligues ne se combattent pas que par des poèmes. Ça pose donc le problème très concret de la violence. Drôle de questionnement, quoi, recourir à des procédés qu'on réprouve.
Bien sûr, évidemment, on choque la sensibilité des gens si on dit, bon, ces gens-là sont des gens violents, il faut retourner contre eux la violence d'une manière ou d'une autre. S'il n'y a pas de violence institutionnelle légale pour pouvoir les juguler, il faudra bien que la gauche les combatte. À ce propos, je voudrais évoquer la violence dans les rues allemandes dans les années 20 et 30, c'est-à-dire les années de la montée du fascisme en Allemagne. Il y avait des combats de rue entre les SA, qui étaient les groupes nazis, et des militants de gauche, communiste, syndicaliste, socialiste éventuellement, etc. Donc de véritables combats. Les militants de gauche étaient obligés de protéger leurs meetings, de protéger leurs manifestations de façon très musclée, parce que l'agression physique était permanente. Alors, si maintenant on renvoie dos à dos ces gens, ah, la violence des rouges et la violence des bruns, c'est la même chose.
C'est ce que dit la propagande actuelle au sujet de l'affaire Clément Méric. Hein. C'est des extrémistes qui se bagarrent. Bon, alors, qu'ils soient de gauche ou de droite, ils sont pareils.
Si c'est innocent, c'est crétin. Et si c'est pas innocent, c'est criminel d'avoir un discours comme ça. C'est pas la même violence, la violence qui est exercée par ces groupes-là. C'est pas les mêmes objectifs. Alors bien sûr, on peut être angélique et dire la violence, c'est la violence. Hein. Pourquoi tant de violence dans ce monde brutal, etc. Mais enfin bon, quand vos manifestations, vos meetings sont attaqués, eh bien on se défend. Et effectivement, la faiblesse aujourd'hui d'une certaine gauche, c'est de ne pas avoir de service d'ordre. J'ai connu, dans ma jeunesse, des services d'ordre musclés de la CGT et du Parti communiste. Les nazillons, ils s'y frottaient pas. Il y avait des dockers, des gars des métallos, etc. Et ces gens-là, c'était à coups de manche de pioche qui s'expliquaient avec les nazillons. Les nazillons ne venaient pas. Parce qu'il y avait un service d'ordre. Les gauchistes, d'ailleurs, de la Ligue, etc., les strotskistes, les maoïstes, faisaient la même chose. Ils faisaient un service d'ordre. C'était avec des types, avec des brassards, etc., et on protégeait la manifestation pour éviter les débordements, les provocations des gens infiltrés de la police, etc., parce que ça existait, ça aussi. Faut pas oublier, la police avait des agents déguisés soit en gauchistes, soit en fascistes, ça dépendait des moments, pour faire des provocations, pour faire déraper une manifestation, de façon à justifier ensuite après la répression et la punition, en quelque sorte. Alors bien sûr, il s'agit pas de militariser l'action politique, mais enfin, faut pas être angélique, hein. Ces gens-là se combattent pas avec des fleurs. Non, ce sont des gens dangereux, des gens violents. Alors, soit Valls fait son boulot, peut espérer, peut-être, que les socialistes, ils ont les moyens policiers. D'abord, ils savent qui c'est, qui est qui. Regardez la rapidité avec laquelle les anarchistes d'Action Directe, tout ça, ont été arrêtés. Hein. Ça met pas longtemps. Hein.
On arrive même à arrêter des gens qui ne sont même pas terroristes, hein, voir l'affaire Julien Coupa.
Ah oui, absolument. Ces gens-là sont complètement paranoïaques à certains points de vue. Non, mais de toute façon, il y a des fiches, il y a des documents, etc. J'ai vu dans le Canard Enchaîné les photos de l'assassin de Méric et de Ayoub, qui était son chef nazi français. Donc ça veut dire qu'on les connaît, enfin bon, on sait qui ils sont, où ils se réunissent, etc. C'est extrêmement facile de démanteler ces groupes-là et de mettre ces gens-là sous surveillance et de leur interdire, comme pour les supporters de Paris Saint-Germain, leur interdire tout regroupement. Ou alors, si c'est pas fait, bah, il faudra bien de toute façon que la gauche, c'est-à-dire les représentants des travailleurs, du peuple français, etc., prennent des mesures. Sinon, on se retrouve avec 10 ans de pétainisme sur le dos. Non, mais attends, il y a des gens qui ont été fusillés, qui ont été déportés, qui ont souffert pour se battre contre ce régime de merde, et il faudrait le retrouver aujourd'hui.
Ne doutons pas un instant que l'actuel gouvernement, hein, qui se prétend socialiste, aura l'intelligence ou l'intuition opportuniste d'endosser l'armure du chevalier blanc qui va combattre le fascisme dans nos rues, hein, et assurer la démocratie.
Oui, bon. Mais c'est toujours très ambigu, les socialistes, hein, si je prends l'histoire des 80 dernières années, quoi. C'est toujours un peu ambigu. Ils sont contre, mais ce sont pas des violents, hein. On voit pas, je vais prendre une image en quelque sorte, on voit pas Hollande monter sur la barricade en quelque sorte. Pourquoi se bagarrer alors qu'il suffit d'avoir un texte législatif, enfin on imagine tout à fait le genre de propos, quoi, lénifiant de ces gens-là. Les communistes, c'est des gens qui ont été décriés, qui continuent d'être couverts de cendres et d'infamie. N'empêche que les meilleurs combattants contre le fascisme, c'était les communistes. Je suis désolé de le dire, mais on le constate quand on étudie l'histoire. Et j'ai vu une citation de Ayoub, le nazi français.
On remarquera déjà au passage que Ayoub, ça fait pas très français comme nom. Enfin bon.
Faut pas être raciste. Mais Ayoub disait qu'il se battait contre les communistes. Il ne disait pas on se bat contre les socialistes. Hein. Ça aussi, c'est une permanence. Hein. Pour ces gens-là, l'ennemi, ça reste les communistes. Et en fin de compte, je crois que les communistes sont honorés par cette haine.
Terminé.
Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.